Oh, c'est devenu... Non, ça, c'était pas le rêve de la toute enfance. C'est devenu... À partir du moment où j'ai vu le film Woodstock, c'est-à-dire je devais avoir 14-15 ans, ça a commencé là. Effectivement, on a commencé à s'intéresser, et j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Et à voir qu'être sur scène, effectivement, ça avait l'air d'être pas mal. Mais c'était pas le rêve de la toute petite enfance, le rêve vraiment qui est exaucé jusqu'au bout, enfin qui est voulu dès le plus jeune âge. Quoi.
Pas du tout, moi, c'est-à-dire que très jeune, j'écoutais pas de musique, et j'ai découvert la musique très très tard. Mais c'est vrai qu'après, j'ai rattrapé le temps perdu. Donc c'était pas un rêve. Quoi.
C'était un rêve dès qu'on a commencé à écouter du rock, mais qui était pour moi complètement inaccessible parce que c'était tellement l'au-delà. Et puis voilà, quoi, c'est arrivé comme ça.
Pour Stéphane et moi, nos parents nous faisaient toujours écouter de la musique, plus classique qu'autre chose, mais ils nous ont toujours fait lire, écouter de la musique, etc. Mais ils ont voulu qu'on... Ils voulaient qu'on fasse du piano, des trucs comme ça, qu'on travaille des instruments, quoi. Mais c'était pas poussé non plus, hein. C'était pas un milieu de mélomane. Enfin, c'était pas un milieu de musicien, c'est plus un milieu
de mélomane,
voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Et pour toi ?
Non, moi j'étais pas dans un milieu favorable à la musique, c'est-à-dire qu'on m'a pas empêché d'en faire au moment où j'ai acheté une guitare, mais non, j'avais juste un grand-père qui faisait du violon, mais sans plus, quoi.
On rencontre toujours un certain nombre de gens qui ont beaucoup de choses à dire. Alors, est-ce que vous, il y a un certain nombre de conseils qui vous auraient marqué, qui vous servent encore aujourd'hui, par exemple ?
Ils ont déjà dit, passe ton bac d'abord. Passe ton bac. Ça, c'est le premier grand conseil qu'on nous a donné. Sinon, sur le purement musical, non, il n'y a pas eu vraiment de conseils. Les seuls trucs qu'on a appliqués, c'était effectivement, et je crois que ça s'applique à tout, c'est le travail, quoi. C'est-à-dire que rien n'est acquis si on ne travaille pas. Et dans la musique, on pensait que tout était acquis, et en fait, on apprend toujours. C'est-à-dire, à la fois, la guitare, c'est un instrument qu'on n'arrivera jamais à... On ne peut pas dire qu'on sera parfait jusqu'au bout, quoi. Donc il faut apprendre, donc c'est le travail. Je pense que c'est le seul chose qu'on garde de nos parents, quoi.
Est-ce qu'il y aurait maintenant, avec le recul, avec l'expérience, des conseils que vous auriez aimé qu'on vous donne par rapport à ce que vous avez vécu ?
Faut pas coucher.
Ça tourne toujours là.
Oh, c'est de... Sinon, les conseils, si, c'est effectivement de faire attention aux gens, de pas avoir confiance aveuglément aux gens. Et je crois que ça peut s'appliquer aussi, pas qu'à la musique, mais le problème de confiance, c'est effectivement, on est arrivé parce qu'on avait une passion qui était la musique, et on est arrivé en découvrant petit à petit un métier avec ses rigueurs, ses exigences, ses confiances ou pas confiances, ses escrocs, ses pas escrocs, enfin tout ce genre de choses. Donc c'est effectivement peut-être que ce qu'on dirait à des jeunes musiciens, déjà c'est de... Enfin nous, si on a des mômes, s'ils ont envie de jouer de la musique, je les mettrai à la musique dès le plus jeune âge déjà. Et puis de faire gaffe, ouais, de pas donner leur confiance à n'importe qui.
Aujourd'hui, vous avez l'impression que le métier de musicien est un métier entre guillemets à risque ?
C'est moins à risque qu'être mineur en Amérique du Sud, hein, donc ça reste quand même un métier privilégié. Ce qui est risqué, c'est effectivement de se passionner et d'arriver à un moment donné où des fois on peut avoir le problème, s'il y a 1% des musiciens qui marchent, hein, ou 10%, enfin il n'y en a pas beaucoup, donc c'est effectivement de ne pas connaître le succès, etc. Quoi.
C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri des dépressions nerveuses ou des suicides ou des trucs comme ça, mais bon, c'est quand même vachement moins dangereux que n'importe quel autre métier, quoi. Sauf l'électricité quand même, c'est dangereux.
Ça fait passer 10 ans que vous êtes ensemble, hein, quoi, 13 ans, 12 ans. Je sais pas, vous avez une recette pour être aussi bien, ou est-ce que vous avez dû faire un certain nombre de choses, ou est-ce que c'est d'une manière naturelle que finalement vous êtes
coucher.
Encore ensemble ?
Faut coucher.
Non, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, donc ça c'est en même temps une qualité parce qu'on se connaît bien, donc on anticipe un peu ce que va faire l'autre. Et les seules divergences, parce qu'on a quand même des divergences, ont toujours été extra-musicales, donc c'est le fait, je pense, c'est pour ça qu'on est toujours ensemble.
Mais vous avez toujours le même état d'esprit, vous êtes toujours allé dans la même direction, musicalement.
Oui, musicalement, il n'y a aucun problème. Mais bon, il y a toujours des conflits, comme tous les groupes, hein, de toute façon, mais c'est toujours extra-musical.
S'il fallait définir un petit peu votre univers, l'univers d'Indochine, je ne sais pas, il y a des mots qui colleraient bien à cet univers, que vous donneriez ?
Bah, au départ, c'est passion, après c'est sérénité et sincérité. Ça, c'est pour nos vues, quoi. Maintenant, dans notre genre de musique, c'est un peu difficile d'expliquer exactement ce qu'on fait. Je pense que c'est un groupe de rock qui a essayé de s'ouvrir et qui essaie de s'ouvrir sur tout ce qui n'est pas classique dans le rock, c'est-à-dire basse, batterie, guitare. Et puis c'est l'inconscient, je pense. Ouais, l'inconscience.
Moi, j'avais personnellement noté un certain nombre de mots comme le rêve, d'une
oui,
part.
Oui, non, mais c'est un fait, oui.
Le voyage, etc. Tout ça, ça fait partie de l'univers Indochine.
Oui, c'est une sorte d'évasion. De toute façon, faire la musique, c'est un peu s'évader. Hein. C'est un peu le langage universel. C'est ça, mais je crois qu'il y a différents thèmes. Je crois qu'on est dans les thèmes normaux d'un groupe de rock, c'est-à-dire le sexe, le social, la religion, mais aussi l'évasion. Tous ces trois thèmes englobent de toute façon une évasion, quelque part.
Vous êtes encore à l'heure actuelle des vrais rêveurs, des grands rêveurs ?
Ouais, moi on me dit toujours que je suis dans la lune, donc c'est oui. En plus, on est tous les trois, on est du signe astrologique Cancer, donc c'est vraiment le signe dit de la lune. Donc c'est vrai qu'on rêve beaucoup, ouais. On rêve peut-être trop même. Donc on est un peu long à la détente.
Le rêve est une chose qui permet aussi parfois de retrouver un certain équilibre, de se ressourcer en s'évadant comme ça. C'est aussi une des conditions sine qua non pour qu'un groupe dure, pour qu'on puisse toujours évoluer.
Oui, oui, je pense que de toute façon, c'est de ne pas répondre à l'industrie du disque, c'est-à-dire de faire des morceaux quand on a envie de les faire et parce qu'on a envie de les écrire. Donc si on n'est pas assujetti, acculé aux pressions, tous les morceaux qu'on a fait de notre vie et qu'on a fait sur ce dernier album, c'est parce qu'on avait envie de les faire et de les écrire. C'était pas des trucs de commande. Donc le rêve est présent, bien sûr.
Ce qui est aussi de formidable avec vous, c'est que, bon, ça fait, comme vous le disiez, 12 ans que vous êtes ensemble. Vous êtes allé de succès en succès. Entre les succès, il y a eu des petits passages à vide d'un point de vue médiatique, s'entend, bien sûr.
Voulu, oui.
Mais vous êtes toujours revenu. Enfin, ce qui prouve que finalement, comme tu le disais tout à l'heure, on peut agir comme on le sent, profondément.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire le fait, effectivement, on n'est pas un groupe dit normal, de sortir une compilation au pire moment du groupe, c'est-à-dire au moment où on parle le moins de lui, d'avoir réussi à en vendre 500 000. C'est que le public est là quelque part. Je crois que le public est vraiment responsable de ça. Mais on arrive à démontrer qu'on peut effectivement ne pas sortir des sentiers battus, sortir un album tous les 2 ou 3 ans, se faire oublier pendant 1 an ou 2, et puis que cet album sort et qu'il y ait des passions à la fois positives et négatives, mais des passions quand même.
En parlant de rêves tout à l'heure ou de manière de se ressourcer, j'ai vu un reportage, je crois que c'était toi en l'occurrence, qui pêchait.
Oui, exactement. Oui, moi, je suis passionné de pêche, donc je viens souvent pêcher, pas très loin de chez vous d'ailleurs, en Franche-Comté. Et c'est vrai que moi, c'est ma deuxième passion, quoi, après la musique, quoi, donc voilà, quoi. je veux pas rentrer dans les détails parce que ça intéresse peut-être pas beaucoup les gens. Donc,
non, mais ce qui est assez intéressant, c'est de constater qu'il y a pas mal d'artistes, de musiciens, de chanteurs qui ont la même passion, qui pêchent aussi. Ouais. Alors je sais pas, il doit y avoir quelque chose de, mais je crois de magique.
C'est un sport où déjà t'es tout seul, confronté à la nature. Et la nature, dans ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire à la fois le végétal et à la fois l'animal. Et puis il y a le calme aussi. Parce que pour pas effrayer le poisson, il faut être dans le calme. Donc je crois que c'est, à mon avis, je peux me tromper, mais je crois que ça doit être les deux grandes raisons.
Oui, ça dépend des styles de pêche. C'est-à-dire qu'il y a certains recherches, il y a des styles de pêche où on peut être très calme. Et moi, je pêche plutôt dans les rivières courantes avec les torrents. Donc c'est plutôt, quand je sors d'une partie de pêche, j'ai mal au crâne, je suis énervé. Ça vaut une séance de nightclub, donc sans problème.
La pêche active. Tu pêches aussi, non ?
Non, il pêche pas, il voudrait faire du ski, mais il a jamais le temps. Voilà.
Vos disques aussi sont un petit peu faits comme des livres, c'est-à-dire qu'on pourrait à la limite les feuilleter. Mm-hmm. C'est une conception que vous avez aussi, finalement produire des livres d'images sonores.
Oui, c'est un peu ça. C'est surtout été pour le deuxième album qui était Le Péril Jaune, où on a voulu vraiment faire un album conceptuel avec cette intro et cette fermeture, comme si on ouvrait ou on fermait un bouquin. Avec 10 petites nouvelles à l'intérieur. Maintenant, c'est un peu différent. C'est surtout des. Enfin, de toute façon, chaque chanson est une petite histoire, est un petit scénario, quoi. C'est vrai que ça s'écoute. C'est des albums qui doivent s'écouter un peu dans la continuité, quoi. C'est pas que des morceaux par-ci, par-là, quoi. On aime bien. De toute façon, un album, c'est 1 an et demi de vie. C'est 12 morceaux, donc c'est quand même assez dense, quoi.
La musique plus que la photo pour moi évoque des souvenirs. Pour vous, peut-être aussi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, en fait, de rencontrer des gens qui avaient vécu un certain nombre de choses sur vos musiques et qui viennent vous les raconter?
Oui, ouais, bah ça oui, sur Les Yeux Noirs, il y a beaucoup de gens qui sont tombés amoureux sur cette chanson-là, donc c'est assez... on est assez... pas fiers, mais disons qu'on est assez contents, quoi, c'est assez mignon. Et puis, je sais pas, là, dernièrement, on a vu une fille à l'aéroport qui était enceinte, qui a voulu appeler son enfant Nicolas, donc ça veut dire que... ça, on a compté ou on compte pour des gens, donc c'est... c'est, ouais, on aime bien, quoi, parce qu'on ne pensait pas, effectivement, quand tu crées une chanson de ta chambre, enfermée tout seul, que finalement ça allait toucher plein de gens. Il y a plein de chansons sur ce nouvel album dont on est étonné aussi de la façon dont elles sont reçues. Un morceau comme Crystal Song, qui est un morceau assez dur, qui parle de la drogue, on ne pensait pas que ça allait toucher plein de gens. On a reçu beaucoup de courriers sur ce titre-là. Ouais.
Ce qui fait que vous êtes toujours finalement assez proche de votre public, toujours en contact.
Oui, ouais, on s'est même au moment où effectivement on avait des difficultés de sortir chez nous, parce qu'il y avait toujours plein de monde au moment un peu hystérique, on n'a jamais pris de garde du corps, de machin, etc. Je pense que, comme Gainsbourg, on en a beaucoup parlé, c'est le contact avec le public, c'est lui qui te fait vivre, donc toi tu dois le rencontrer, bien sûr.
Ça, c'est vrai que c'est un des aspects du groupe aussi qui a été assez fort à un moment donné, c'était ces crises d'hystérie. On le vit comment, ça? Est-ce qu'on arrive à rester encore soi-même, les pieds sur terre?
Bah oui, parce qu'on essaie de... Le seul luxe qu'on s'est offert, c'est dans Indochine, c'est d'avoir des maisons personnelles et de se garder une sorte de vie privée, c'est-à-dire de ne pas vivre continuellement cette hystérie. Parce que c'est vrai que des fois, ça peut très bien déraper. Et puis le gros problème des musiciens qui sont dits rockstars, c'est qu'ils se prennent pour des dieux, et on n'est pas des dieux, personne n'est des dieux. Les chirurgiens... Les chirurgiens qui bossent, enfin qui opèrent à Sarajevo, eux, ce sont des gens qui méritent beaucoup plus que nous, maintenant.
On parlait de voyage tout à l'heure, j'ai également vu des images qui avaient été tournées au Pérou, je crois, où là aussi c'était le délire total. On peut être étonné, s'étonner qu'un groupe français s'exprimant en français puisse provoquer quasiment de telles émeutes dans un pays d'Amérique du Sud.
Ouais, le Pérou, on était étonné effectivement, mais on s'est rendu compte que... Un groupe francophone ou un groupe français, ça peut très bien marcher. Il suffit qu'il y ait un engouement personnel de quelqu'un ou de plusieurs personnes dans des pays différents comme la Scandinavie ou l'Amérique latine. Et ça a marché comme ça. Et bon, c'était déjà surprenant de vendre beaucoup de disques là-bas. Ce qui était surprenant, c'est d'arriver dans un pays, d'être attendu par 5000 personnes à l'aéroport, de faire 45 000 personnes dans les concerts. C'est surprenant de savoir que les Pérouviens, ils connaissent Indochine aussi bien que la France, quoi. C'est marrant, quoi, c'est marrant.
Ça vous conforte aussi dans votre idée de continuer à chanter en français?
Oui, ça veut pas dire qu'on est des ambassadeurs de la langue française, mais ça veut dire que tout ce qu'on peut lire à droite et à gauche concernant le rock francophone, qui a des difficultés à s'exporter, c'est pas vrai. Je pense que n'importe qui maintenant peut réussir. Il faut, du moment que la sincérité prime, je crois que c'est l'essentiel.
On redéfinit aussi un petit peu le rôle de la musique, on le comprend mieux, on le conçoit mieux quand on voit ça. Puisque le rôle de la musique, enfin pour moi en l'occurrence, c'est aussi de rassembler les gens.
Un peu, bien sûr, c'est hyper important, c'est de se rendre compte qu'on est aussi des... qu'il ne faut pas déraper, que les gens vous écoutent vraiment à la lettre, quoi. Ça, c'est assez interrogatif, ouais. C'est pour ça qu'on essaie de faire des albums, pas souvent, prendre un peu de temps entre les deux pour... Parce qu'on vit quand même une vie un peu anormale, donc comme on veut écrire des choses un peu anormales, il faut vivre une vie normale. Ouais, mais ça, j'essaie de pas trop y faire gaffe, parce que sinon, si je me donne une sorte d'autocensure, je pense que là, la sincérité ne marche plus, quoi. Donc un texte comme Savoure le Rouge, on peut pas dire que ça va assez loin quand même, donc on peut pas dire que... Même sur Les Toits du Monde aussi, où je dis je voudrais rire, je voudrais mourir, je voudrais survivre, c'est assez dur sur le contexte, mais... Non, je pense qu'il faut donner vraiment du meilleur de soi, quoi. Il ne faut pas se trahir.
C'est plutôt du style le premier jet pour ce qui est de l'écriture?
Pas vraiment, c'est plutôt réfléchi, mais une réflexion très égocentrique. C'est de toute façon, c'est pas en réponse au succès, c'est d'abord soi qui passe. C'est vraiment c'est pour ça que je dis que c'est un métier assez inconscient, parce qu'on peut, troisième siècle, je pensais pas du tout que ça allait faire effectivement une sorte de chanson, une sorte d'hymne d'une génération, quoi, parce que c'est quand même une chanson assez bizarre. Donc.
Sur ce nouvel album, il y a deux, trois choses qui ont évolué, et entre autres la voix, je trouve, qui a évolué. Ça veut dire que tu as fait un travail sur la voix?
Heureusement, il y a eu un travail depuis... Écoute, moi j'ai commencé le chant parce que je savais pas jouer d'instrument, donc je me suis mis à chanter. Moi j'ai gardé une image dans la tête, c'était un... Le chanteur des Clash qui était en studio dans un film, je l'ai vu hurler. Et donc au début, je faisais comme ça. Je vais faire comme le chanteur des Clash, je vais hurler, il faut donner de l'énergie. Puis après, je me suis rendu compte que finalement, il fallait aussi se concentrer, il fallait aussi s'échauffer la voix. Donc tout ça vient en travaillant et avec le temps. Et puis là, j'ai adopté une nouvelle méthode au niveau de l'enregistrement. C'est une méthode qui est simple, c'est de ne pas chanter en studio avec le casque à fond, c'est de mettre deux petits baffles comme un autoradio et de chanter par-dessus, c'est-à-dire que tu t'entends mieux. C'est plus difficile pour se concentrer parce que tu entends la musique, le playback très lentement, mais tu as une interprétation beaucoup plus efficace. Donc effectivement, c'est des découvertes, c'est comme ça qu'on, chaque année dans un studio, on découvre d'autres facettes de ce qu'on peut faire.
La voix est un instrument assez spécial, hein, puisque c'est à la fois physique, ça touche à l'esprit aussi, ouais. À l'âme. Est-ce que tu as l'impression que ça équilibre l'individu ? Le fait de chanter, est-ce que ça donne un plus à ta personnalité ?
Oui, je crois que ça, c'est un très très bon remède contre l'état un peu dépressif où on peut être. On donne beaucoup aux gens qui sont en dépression un petit peu des cours de chant, parce que c'est vrai que ça se fait s'exprimer, etc. De toute façon, c'est un muscle, hein, la voix, hein, c'est des cordes vocales et tout. Donc je crois que c'est un atout. C'est pas étonnant que dans la religion, d'ailleurs, il y a beaucoup de chants. Que ce soit dans le bouddhisme, dans la religion catholique, etc. C'est très mystique.
Il y a un autre aspect dans cet album qui a évolué, un petit peu changé, c'est les guitares, qui sont quand même parfois plus hargneuses, plus rock, plus travaillées aussi.
Non, elles sonnent plus rock. Elles sonnent plus rock parce que bon, quand tu mélanges des guitares avec des machines, de toute façon, ça a un côté un peu plus soft. Du moment que tu n'as que des guitares toutes seules, c'est un peu l'esprit qu'on avait et qu'on a depuis, de toute façon, depuis qu'on a commencé à jouer, c'est avoir un son rock. Puis bon, on avait envie de s'orienter vers des sons comme ça, en essayant même voir la distorsion et tout ça, quoi. Plus travailler, bon, de toute façon, musicalement, on évolue d'année en année, quoi. C'est vrai que bon, on est meilleur musicien qu'il y a 12 ans, meilleur musicien qu'il y a 2 ans. Mais c'est un son qu'on voulait donner particulièrement aux guitares. En prenant aussi Miklonet qui avait produit. Anasoué, celui-là, Albert. Donc Albert, comme il n'est pas là. Mais ceci dit, comme Midnight Hall, Miklonet qui avait produit Midnight Hall, on adorait le son de production qu'il avait donné aux guitares. Bon, c'est pas lui qui a donné le son des guitares à l'album d'Anochine, mais qui a englobé ce mélange entre le son des guitares qu'on avait nous avec Dominique et le reste. Et c'était un son rock qu'on a et qu'on voulait avoir depuis le début.
Le travail en fait du mixeur-réalisateur, en l'occurrence c'était d'une part j'imagine sur l'instrumentation, est-ce qu'il vous donne aussi parfois des conseils, est-ce qu'il vous donne son avis, est-ce que vous l'écoutiez ?
Sur ce disque, contrairement aux précédents albums, c'est-à-dire que là, comme on n'a pas utilisé toutes les machines, donc comme te disait Stéphane, on a tout fait live et donc on voulait placer les guitares devant. Le réalisateur, c'est plutôt quelqu'un qui se met à part et qui sait te dire, par exemple, bon, là on faisait les basses, batterie, basse, guitare, voix, les deux guitares ensemble. Et après, bon, moi je refaisais par exemple un overdub. C'est sûr que s'il y a pas un réalisateur, moi je vais refaire 50 fois le même truc, même si je l'ai fait, si j'ai la bonne pour la première prise et la bonne prise. Donc c'est lui qui me dit, attends, la première prise c'est déjà bien, continue pas. Et pareil pour les voix de Nicolas. Et pour certaines idées, par exemple certains titres, c'est vrai qu'un réalisateur, on peut faire un disque sans producteur, mais quand on peut, c'est bien d'en avoir un parce que ça permet d'avoir quelqu'un avec le recul derrière. Et puis en plus, ce sont des. Donc il y a eu Niclonet et Philippe Edel, donc ce sont des gens qui ont quand même un certain métier, un certain savoir-faire, donc qui est très utile pour nous.
Est-ce que vous avez dans votre entourage des personnes de référence à qui vous faites par exemple écouter vos premières esquisses avant d'aller en studio ? Des amis ou je sais pas, des.
Oui, on a deux ou trois personnes, oui, qui nous suivent depuis 5-6 ans, qu'on connaît, à qui on sait qu'on peut avoir une réelle confiance, qui savent vraiment où on veut aller, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a deux ou trois personnes, puis quelques intimes autour de nous, quoi. Mais généralement, on aime bien garder un petit peu secret toute notre créativité, quoi. Il y a une tradition chez nous, c'est que la maison 10, par exemple, qui sont quand même les gens qui nous font le plus confiance et à qui on doit faire le plus confiance, n'écoute l'album qu'une fois terminé, c'est-à-dire une fois mixé. Parce qu'on leur fait écouter pour les choix des singles, etc. Mais sinon, on ne leur fait pas écouter avant parce qu'on a trop peur qu'ils racontent des conneries, parce que ce sont des gens qui sont quand même assujettis aux modes, etc. Donc je ne trouve pas que ça soit très. C'est pas présomptueux, mais je ne pense pas qu'ils ont la vérité absolue.
Objectif.
Voilà.
Ok, combien de temps il vous a fallu pour concevoir l'album, l'enregistrer ?
Un an et demi au niveau de la réflexion et de la créativité, de la création. 2 mois et demi pour l'enregistrement et le mixage. C'est-à-dire que depuis novembre 92 jusqu'à juillet 93, et puis on a enregistré juillet, août, septembre.
Et quelle a été votre réaction lorsque vous avez reçu le disque, pochette, produit fini, comme je pourrais l'acheter dans le commerce par exemple?
Ça a effectivement été très vite. Parce qu'on a eu l'impression d'avoir travaillé beaucoup, on a écrit une trentaine de projets. Un an après, il était sorti, donc ça va vite. Mais c'est bien aussi, comme ça il y a une urgence aussi assez intéressante.
Est-ce que les chansons de l'album sont des chansons qui pourraient être considérées comme des chansons pop, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on pourrait les interpréter uniquement guitare et voix?
Je crois que c'est ce qu'on s'est rendu, compte de ça. Alors qu'avant, on faisait très attention sur scène de reproduire exactement les mêmes morceaux, le même son que disque qu'en scène. On s'est rendu compte, en jouant de temps en temps, Trois Nuits par Semaine ou Troisième Sexe ou d'autres chansons, qu'elles tenaient aussi bien le coup avec les accords, juste la guitare. Donc effectivement, toutes les chansons maintenant d'Indochine, on sait qu'elles peuvent être sur un album unplugged et vivre par ça, quoi.
Peut-être bientôt l'album unplugged.
Peut-être.
Ok, vous allez tourner un petit peu?
Oui, alors là maintenant, ça fait 4 ans et demi qu'on n'a pas tourné réellement. On a fait 10 concerts surprises pour notre anniversaire il y a un an et demi, pour les 10 ans du groupe. Donc là, on repart sur une grosse tournée qui va s'étaler jusqu'en décembre 94. On fait d'abord les villes où on n'est jamais passé, que ce soit en Europe ou au Canada. Et puis après, on fait les grandes villes. Donc il est question de faire la Suisse en juin ou en juillet.
Comment ça se passe lorsque vous êtes sur scène? Vous en êtes encore à vous découvrir parfois, à être surpris les uns les autres par rapport à ce que vous faites ou autre?
Non, enfin, oui, il y a toujours des surprises, parce que quand le fait de faire un concert live, donc il peut toujours se passer des choses avec le public ou même nous musicalement. Mais là, sur scène, c'est-à-dire que cet album, quand on l'a conçu, on pensait déjà à la scène. C'est-à-dire qu'avant, on était un peu prisonnier de certaines machines, le Fairlight. Et donc là, on aura une totale liberté. Donc avec les musiciens additionnels, et c'est vrai qu'on pourra réarranger certains titres, parce que c'est sûr qu'il y a des inévitables qu'on sera toujours obligé de faire, donc parce que certaines personnes veulent entendre tel titre ou tel titre, mais on a plus de liberté, donc c'est pour ça qu'on est assez attentif quoi, et impatient de partir en tournée. Mais bon, on se connaît bien et c'est ça le charme d'une tournée quoi.
Quand j'ai un artiste, je lui offre 3 vœux, en l'occurrence vous êtes 3. Si j'avais la possibilité hypothétique de réaliser un de vos vœux, lequel serait-il aujourd'hui?
Que le lac les monts soient gelés pour que j'aille faire du patin dessus.
C'est un vœu irréalisable.
Je sais bien.
Je sais pas moi, que les gens soient heureux, quoi, c'est tout ça.
Qu'on soigne et qu'on trouve le vaccin contre le sida.